Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossuma, tout de suite, le sommaire. La société RTL, accusée de complicité dans les transactions financières entre les kidnappeurs et les victimes dans la ville de Goma. Un collectif de 50 familles victimes se sont constituées en partie civile. À l'audience d'hier au tribunal de grande instance de Goma, les conseils de ces familles ont démontré devant les juges la manière dont RTL participe avec ses équipements à ces opérations. Le docteur Denis Mukwege, favorable à une collaboration entre l'hôpital de Panzi au Sud Kivu, le centre médical communautaire de Lubumbashi et la faculté de médecine de l'UNILU, c'est notamment pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Le prix Nobel de la paix l'a annoncé à partir de Lubumbashi où il séjourne. Et puis, recrudescence des cas de poliomyélite dans certaines zones de santé du Maniema. Entre autres causes, la faible couverture vaccinale, explique le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination PEV. Le docteur Kaozi John est notre invité ce midi. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. La maison de téléphonie mobile RTL est mise en accusation depuis le mois de février dernier par un collectif de 50 familles victimes des kidnappings dans la ville de Goma. Au cours de l'audience d'hier au tribunal de grande instance de Goma, ces familles se sont constituées en partie civile. Elles accusent cet opérateur de téléphonie mobile de faciliter des transactions financières entre les kidnappeurs et les victimes. Les parties plaignantes qualifient cette pratique de criminelle qui a pour et traumatise plusieurs familles à Goma, tout comme à l'intérieur de la province. Explication Gabriel Wamenya.
L'AS est démobilisée par cette pratique criminelle qu'elle considère comme des opérations entretenues délibérément par la maison RTL. Ces 50 familles l'acquisent des surcroît de collaborer directement avec les kidnappeurs dans les opérations de transactions financières entre les victimes et les auteurs présumés de ces kidnappings. Au cours de l'audience d'hier mardi, ces familles, par le biais de leurs avocats, ont démontré clairement devant les juges la manière dont RTL participe avec ses équipements à ses opérations illicites. L'une des victimes ne cache pas ici son désarroi.
Le message que le kidnappeur m'a envoyé quand je les ai dit de me donner un numéro Vodacom pour faire les transferts de l'argent qu'ils ont demandé. Les kidnappeurs m'ont dit qu'ils ne peuvent pas utiliser le réseau Vodacom parce qu'ils connaissent Vodacom très bien. Le réseau qui les facilite souvent, c'est RTL. Ils ont pris l'ENFA le 31 août 2021. Ça fait 6 mois déjà.
Rappelons que dans un communiqué de presse datant du 4 février 2022, RTL RDC a tenu à rappeler à toutes les victimes de tous les actes de kidnapping qui revenaient aux seules autorités judiciaires de procéder à la collecte d'informations dans le cadre d'une enquête judiciaire. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Par ailleurs, le tribunal militaire de garnison de Beni a rendu hier son premier jugement dans le procès des ADF et leurs collaborateurs. Procès commencé il y a quelques jours à Beni, 12 prévenus, dont un Rwandais et une Kenyane, ont écopé de peines allant de 10 à 20 ans de servitude pénale principale pour participation à un mouvement insurrectionnel. Mais il y a beaucoup d'attentes autour de ce procès, c'est ce que nous dit Martial Papi Mukeba.
Si le jugement est tombé pour ces 12 prévenus, jusqu'à ce mercredi, ce sont au total 128 présumés combattants ADF et leurs collaborateurs qui ont été déférés devant le tribunal militaire des garnisons de Beni pour y être jugés. Selon des sources judiciaires, il s'agit des Congolais, Kenyans, Ougandais, Rwandais, Tanzaniens et Burundais poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel dans le cadre de la rébellion des ADF. Le présumé assassin d'Ishe Al-Amin, président de la communauté islamique et chargé des cultes à Beni, tué par balle le 1er mai 2021, dont la mort a émis plus d'un à Beni, sont parmi ces prévenus. Il faut dire que les populations attendent beaucoup de ces procès, notamment ceux qui ont perdu les leurs dans les différentes attaques ADF et qui veulent que justice leur soit rendue. Les autorités veulent aussi, à travers ces procès publics, montrer à ceux qui s'attaquent aux Congolais qu'ils auront toujours la justice au travers de leur chemin. Un message, sans doute aussi, à ceux des Congolais qui, à travers les ADF, s'en prennent à leurs propres concitoyens. Signalons que c'est la première fois depuis 2018 qu'un procès des ADF s'ouvre à Beni. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Entre-temps, en Ituri, au moins 18 miliciens de la Codeco ont été tués par les FARDC à Arruda, à la limite entre les territoires de Djougou et de Mahagi. Information livrée ce mercredi par le porte-parole de l'armée en Ituri dans un entretien à Radio Okapi. Selon le lieutenant Jules Ngongo, c'est depuis le début de la semaine que l'armée a lancé une offensive contre l'une des positions de ces rebelles dans cette entité. D'autres détails avec Jean-Claude Loki.
Il s'agit de l'un des bastions d'où ces miliciens lancent des attaques contre plusieurs agglomérations, dont Amé, Arruda, Dialoussene, Pakenge ou encore Za, dans les territoires de Mahagi. D'après une source sur place, lundi dernier, c'est hors la loi ont abattu 3 personnes et incendié une centaine de maisons à Dialoussene. Pour le porte-parole de l'armée en Ituri, le but de ces opérations est de déloger l'ennemi de cette zone où plusieurs effets militaires ont également été récupérés par les FARDC. Lieutenant Jun Gongo.
Cette attaque a été repoussée de manière très farouche au niveau des localités Arruda. Nous réitérons le message du gouverneur militaire en appelant toute la population à soutenir et à accompagner les forces armées dans ces combats contre les groupes armés. C'est un devoir civique et patriotique de tout Congolais.
Sur place, la vie reprend timidement, affirme la société civile de ce territoire. La plupart des habitants de ces villages ont fui vers Ngote, Ndrele, Kingot, Logo, Kotongola, Dupangima ou encore Ndama. Seuls quelques jeunes sont présents. Les femmes, les enfants ainsi que des personnes de troisième âge hésitent encore d'y retourner en attendant le rétablissement total de la sécurité. Pour la société civile, il y a nécessité d'ériger sur place des positions des militaires et des FADC pour mettre fin aux exactions de ces miliciens. Bounia Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi.
Province de la Tchopo, la sécurité dans la ville de Kisangani doit faire partie du réflexe de chaque habitant. C'est le message clé apporté par le chef de division provinciale de la décentralisation et réforme institutionnelle hier au chef d'avenue, bloc et quartier de la commune urbaine de Kisangani. Ceci pour lutter contre la recrudescence de l'insécurité enregistrée ces derniers jours dans la ville. Une campagne de sensibilisation des chefs des quartiers et d'avenue intitulée « Yebela voisin, entendez, sois prudent avec le voisin » est ainsi lancée dans la ville de Kisangani. Pour Balea Nikomoy, chef de division provinciale de la décentralisation, cette opération permettra aux chefs d'avenue, blocs et quartiers à renouer avec le recensement des habitants de leurs ressorts respectifs afin d'identifier les nouveaux venus. Je vous le disais en titre, le docteur Denis Mukwege poursuit son séjour à Lubumbashi. Hier, il a animé et co-animé une conférence scientifique à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi. En marge de cette rencontre, le prix Nobel de la paix s'est montré favorable à la collaboration sud-sud entre l'hôpital de Panzi au sud Kivu, le centre médical communautaire de Lubumbashi et la faculté de médecine de l'UNILU, notamment en matière de prise en charge des victimes de violences sexuelles. On écoute le docteur Denis Mukwege au micro des gens.
Notre passage à Lubumbashi, c'était surtout pour sceller une collaboration sud-sud entre l'hôpital de Panzi, CMC ici à Lubumbashi et la faculté de médecine. Et je pense que c'est très important que nous commencions à développer cette collaboration sud-sud puisqu'il y a beaucoup de potentiel, mais malheureusement, chacun reste dans son coin et on n'arrive pas à partager nos connaissances. Il y a des médecins qui sont allés se faire former à Panzi et qui sont ici à Lubumbashi. Je crois qu'aussi ces passages, nous allons discuter avec pour voir comment on peut améliorer la prise en charge. Nos équipes continuent à aller, par exemple, à Pointe opérer. Ça serait beaucoup plus facile de pouvoir envoyer les malades ici à Lubumbashi avec les équipes, en collaboration avec l'université et le CMC, et trouver le moyen de pouvoir les prendre en charge gratuitement. Puisque la spécificité pour les victimes de violences sexuelles, c'est qu'elles ont été victimes puisque nous, société, on ne les a pas protégées. Et donc, on ne peut pas leur demander en plus de pouvoir payer notre faute. Pour moi, je crois que la société doit les prendre en charge, c'est déjà une forme d'une réparation.
Rendons-nous en Mbujimayi pour signaler la rupture des stocks des médicaments au centre Fistula Care, un centre qui s'occupe depuis bientôt 10 mois de la prise en charge des femmes atteintes des fistules obstétricales dans les provinces du Kasaï Oriental et de l'Omami. D'après le médecin directeur de ce centre, les intrants, les médicaments ainsi que la ration alimentaire destinée aux femmes malades sont en rupture depuis bientôt 2 mois. Pourtant, 60 femmes malades attendent d'être opérées. Docteur Jean-Pierre Lukoji, réparateur des fistules, demande à l'UNFPA, au gouvernement ainsi qu'aux bonnes volontés de venir en aide à ce centre. Docteur Lukoji au micro d'Esther Dalafina.
Il y a de cela maintenant 2 mois. Nous n'avons pas les intrants, l'appui nutritionnel, les médicaments. Vous savez que les femmes atteintes par des fistules obstétricales sont des dames délaissées. Les intrants qu'on avait ont été donnés par INFP. Même l'appui nutritionnel, même les actes opératoires ou les interventions, c'était INFP. Mais nous avons réparé autant de dames, même les intrants qui restaient sont déjà terminés parce qu'il y a beaucoup de cas ici au Kasaï Oriental. On nous réfère des cas de partout. De Mweneditu, Kanyama, Ngandanjika, Chilenge, Kabe Kamwanga. C'est plus de 60 dames avec fistules qui sont là. Je dois les garder comme ça, sans intrants, sans quoi, sans appui nutritionnel. Nous avons promis à ces dames, on devait commencer encore à réparer. Mais nous allons réparer avec quoi? C'est ainsi que nous lançons un cri d'alarme aux partenaires INFP. Nous demandons au gouvernement. Toutes ces dames ici, ce sont des dames congolaises. Elles seront électrices dans le gouvernement. De bien vouloir penser à toutes ces dames. Nous plairons pour qu'on aide quand même ces dames, qu'on les répare, qu'elles rentrent dans leur foyer.
En réponse, le Fonds des Nations Unies pour la Population, qui s'est chargé de la formation du personnel médical de ce centre, de la dotation en équipement et en médicaments, ainsi qu'à l'appui nutritionnel des femmes malades depuis l'ouverture de ce centre, promet de résoudre certaines difficultés dans un bref délai. Dans le territoire de Lubao, province de Lomami, 5 personnes sont mortes foudroyées et 3 autres blessées grièvement. Cela s'est passé hier en plein culte à l'église kimbanguiste dénommée la Pentecôte. Les sources concordantes affirment que c'était pendant une pluie torrentielle qui s'est abattue sur cette localité. Le récit de Esther Ndalafina.
Parmi les victimes, il y a 4 femmes et un homme. Les sources sur place affirment que les 5 personnes décédées ont été surprises par la foudre alors qu'elles étaient en plein culte à l'église kimbanguiste dénommée la Pentecôte, située en face d'un terrain de football dans la localité de Kamana, chef-lieu du secteur de Bekalebwe. Les chefs de cette entité affirment que ce drame a créé la panique car parmi les victimes, il y a une femme prophétesse d'une grande renommée qui dirigeait les activités du culte dans cette église. 3 blessés inconscients sont toujours admis dans un centre hospitalier de la place. D'autres adeptes ont pris le large après le drame, affirment les sources sur place. D'après l'administrateur du territoire de Lubao, les familles des victimes s'organisent pour inhumer les corps ce mercredi. D'autres sources signalent que la localité de Kamana enregistre des pluies torrentielles qui causent souvent des dégâts matériels importants. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction la province du Maniema. La gratuité de l'enseignement est effective dans la province avec un flux d'élèves malgré l'état actuel de ces écoles. C'est le directeur de cette province éducationnelle qui l'a dit à Radio Okapi. Yoy Bokete Jean-Pierre salue les efforts du gouvernement d'avoir ciblé la province du Maniema dans son programme de construction d'écoles. Yoy Bokete au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons vraiment un afflux, un engouement inexplicable au niveau des écoles de Maniema du niveau primaire. Nous avons aujourd'hui 323 497 élèves, dont 153 164 élèves filles. Ici, je voudrais dire que la gratuité au niveau de la province éducationnelle Maniema 1 est effective. Je tiens à vous dire que la province éducationnelle Maniema 1 a au total 1630 écoles. Et le problème que nous avons trouvé là, c'est le problème d'abord de la scolarisation de la fille. Et dans le domaine des infrastructures, nous avons un problème un peu sérieux. Nous avons 73% d'écoles en pisé au niveau de la province éducationnelle Maniema 1 contre 27% d'écoles construites en dire. Là, ce sont les problèmes majeurs qui sont entrés un peu déranger le système éducatif au niveau de la province éducationnelle Maniema 1.
Province de Maïndombe, la Société de développement forestier Sodefor a procédé mardi au lancement du projet de développement de la commune rurale de Nyoki, située dans le territoire de Koutou. Il s'agit du projet Nyoki Bopeto, constitué de plusieurs axes, entre autres l'assainissement et la réhabilitation des grandes artères de cette cité, ainsi que la gestion des déchets ménagers, a dit Sombe Mwanabi, coordonnateur des ressources humaines. Des matériels pour le cantonnage manuel ont été remis afin de pérenniser ce projet. D'autres détails avec Irène Boma.
Ce projet de développement dénommé Nyoki Bopeto est lancé dans le cadre de la responsabilité sociétale de la Société de développement forestier Sodefor en sigle basée à Nyoki. Il vise l'assainissement et la réhabilitation d'au moins 7 artères principales de cette commune rurale actuellement impraticable à cause des érosions et la gestion des déchets ménagers. Sombe Mwanabi est le coordonnateur des ressources humaines de cette société.
La Sodefort a procédé à la remise de matériel pour les cantonnages en vue de pérenniser cette action. Pour la gestion des immondices au niveau de la commune rurale, les études environnementales et les pourparlers sont en cours avec les experts.
Content, le chef de la cité de Gnocchi, Mario Moke, a invité sa population à s'approprier ce projet pour son bien-être.
À la population, nous avons sensibilisé afin qu'ils puissent s'approprier de ces projets. Dans ce sens que les endroits prévus pour l'évacuation des eaux de pluie, qu'ils ne puissent pas utiliser comme poubelle.
Notez que ce projet a comme objectif principal la contribution à l'amélioration des conditions de vie de la population sur les plans socio-économiques et environnementaux. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes d'abord au Sénégal. Hadji Sarr prend la parole pour la première fois depuis près d'un an. Il s'agit de la jeune employée d'un salon de massage qui avait accusé le 3 février 2021 de viol répété Ousmane Sonko, figure de l'opposition à la tête du parti politique PASTEF. Cette affaire judiciaire avait embrasé le Sénégal, provoquant des émeutes violentes et meurtrières à travers le pays, alors que le dirigeant du parti, le PASTEF, dénonçait un complot pour l'écarter de la scène politique. Au total, 13 morts selon les chiffres officiels et 590 de blessés ont été comptés par la Croix-Rouge. Un an plus tard, Hadji Sarr sort de son silence pour que la vérité éclate, accordant quelques entretiens à des médias triés. Le président américain Joe Biden s'est exprimé hier dans la soirée sur l'Ukraine lors de son discours sur l'état de l'Union. Il s'en est pris avec force à Vladimir Poutine, je le cite, un dictateur qui est plus isolé que jamais et aux oligarques russes, fin de citation. Cependant que Moscou intensifiait son offensive en Ukraine, frappant notamment Kiev, la capitale, et la grande ville de Kharkiv, les élus du Congrès américain se sont levés mardi pour une ovation au peuple ukrainien au début du discours donné par Joe Biden. Le président américain a assuré que les États-Unis sont aux côtés du peuple ukrainien.
L'invité.
Le Maniema notifie déjà 16 cas de poliomyélite dans 8 zones de santé sur les 18 que compte cette province. Le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination PEV évoque la faible couverture vaccinale parmi les causes de cette situation. Un plan de renforcement des activités de surveillance, de vaccination de routine, de communication ainsi que de la logistique est élaboré pour remonter la situation. Dr Kao Zijon s'entretient à ce sujet avec Florence Kizalunga.
Docteur Kaouzi John Desmet, bonjour.
Bonjour, madame.
Coordonnateur du programme élargi des vaccinations, quelle est la situation épidémiologique de la province?
Merci pour la question. La province est en train de traverser une situation à améliorer. C'est-à-dire, nous sommes en épidémie de rougeole. À part la rougeole, nous sommes encore en épidémie de COVID-19. Nous avons une épidémie de CVDPV, qui sont en fait des maladies qui sont évitables par la vaccination. Et par rapport au CVDPV, c'est-à-dire la polio, présentement nous avons 16 cas confirmés en province qui sont répartis dans différentes zones de santé des CVDPV, c'est-à-dire des polio.
16 cas de polio dans une province comme le Maniema, c'est trop. Qu'est-ce qui est à la base alors que chaque mois on vaccine les enfants et les femmes enceintes?
Ce qui est à la base, nous avons des causes qui sont de façon regroupée, des causes qui sont principales. Il y a des causes qui sont liées à l'offre des services, c'est-à-dire la manière dont nous vaccinons. Et il y a des causes qui sont liées à la demande des services, c'est-à-dire la part de la population. Pour ce qui concerne l'offre des services, bien sûr, devons avouer qu'on ne vaccine pas partout dans la province, étant donné l'étendue de la province et le nombre insuffisant de séances de vaccination. Que ce nombre-là, insuffisant de séances de vaccination, dans certains villages, bien sûr, parce qu'il y a des villages qui sont suffisamment couverts en vaccination, cela fait de sorte que nous ne puissions pas atteindre des couvertures immunitaires. C'est par exemple des raisons aussi qui peuvent expliquer cette insuffisance en nombre de séances de vaccination. C'est l'absence, par exemple, de vélos dans les centres de santé pour permettre à ce que l'infirmier titulaire et son équipe puissent faire la stratégie avancée. Nous avons également des centres de santé qui n'ont pas de réfrigérateur pour permettre la conservation des vaccins. Il y a aussi des centres de santé qui sont vraiment éloignés du bureau central dont l'approvisionnement en vaccins pose problème, mais aussi du côté de la demande. C'est que même si le service de vaccination est disponible, c'est-à-dire les vaccins sont là, la logistique est bien assuré, mais il faudrait du côté de la population que les parents acceptent d'amener leurs enfants au niveau des services de vaccination.
Alors que vous êtes toute une coordination, qu'est-ce que vous pensez pour résoudre ces problèmes?
Eh bien, pour résoudre ces problèmes, effectivement, nous avons déjà élaboré un plan de renforcement des activités de surveillance épidémiologique, des activités de la vaccination des routines. Ce même plan intègre les activités de communication et les activités de la logistique. Donc vous comprenez que c'est un plan qui prend déjà les causes, parce que quand nous devons faire l'analyse, cette analyse devra nous permettre d'identifier les problèmes et de ces problèmes retrouver les causes, parce que les solutions sont rattachées au niveau des causes. Les solutions ne sont pas rattachées aux problèmes. C'est ainsi que, comme nous avons déjà identifié les différentes causes, nous avons élaboré ce plan, n'est-ce pas, de renforcement de ces activités de surveillance, de vaccination, des routines, de communication, ainsi que de la logistique. Et nous attendons que les partenaires puissent aussi nous venir en aide pour appuyer ce plan, afin de nous permettre de les mettre en œuvre et remonter à la situation.
Quelle recommandation à la population?
La recommandation, c'est que du côté des personnels médicaux que nous sommes en train de faire notre part. Nous cherchons à tout prix que les vaccins soient disponibles dans tous les villages pour assurer une vaccination tant en fréquence réelle et aussi de qualité, mais aussi de demander à la population de pouvoir adhérer à la vaccination, parce que nous pouvons avoir les intrants qui sont disponibles, mais si la population ne vient pas se faire vacciner, et surtout qu'aujourd'hui, vous savez, avec la situation de l'infodémie autour du vaccin contre la COVID-19, il y a certains parents qui pensent qu'on va administrer ce vaccin-là contre la COVID-19 aux enfants. Or, ce vaccin-là ne cible pas les enfants, mais le vaccin contre la COVID-19 cible les personnes de 18 ans et plus. Et ce vaccin-là, il n'est pas nocif, c'est un vaccin qui est béni. Donc, c'est juste interpeller les parents, parce que les parents, ils avaient déjà de bonnes habitudes avant. Nous avions de belles couvertures en province, mais à partir de cette infodémie-là, ça diminue la performance de la province. Mais aussi, il faut signaler que les grèves aussi que nous avons vécues en province ont aussi dilué les couvertures vaccinales, nous exposant ainsi à pouvoir être victimes de différentes épidémies en province.
Docteur Kaozi John Desmet, merci.
Merci, madame.
Le coordonnateur du programme élargi de vaccination, PEV Maniema, était avec Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Supervision de Martin Sebujangwe, Alain Goye était à la technique et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.